France Culture. Grand reportage, Aurélie Kiefer.
Je n'aime pas l'idée d'être vieille au point de ne plus pouvoir être autonome. Je pense que c'est un bon choix de rester actif. Il nous faut continuer à être en phase avec le monde.
Avant, on avait coutume de dire « si vous avez besoin d'aide, on vous en apportera ». Et aujourd'hui, c'est plutôt que de venir vous aider, peut-on faire quelque chose qui vous aiderait à vous débrouiller seul ?
Le grand débat du moment est de se demander si nous devons autoriser certaines professions à partir à la retraite plutôt que d'autres. Ça risque de créer pas mal de conflits. Nous sommes un pays uni, nous sommes solidaires les uns des autres. Ça pourrait nous amener à être plus individualistes, ne penser qu'à nous. C'est du moins ce que je crains.
Rien n'est écrit sur l'exécutif. Concernant la future réforme des retraites, beaucoup de questions restent ouvertes et la consultation citoyenne va se poursuivre jusqu'à la fin de l'année. Emmanuel Macron, Édouard Philippe et Jean-Paul Delevoye, le haut commissaire aux retraites, mouillent leurs chemises pour aller expliquer aux Français les grandes lignes du futur système de retraite universel par points qui doit fusionner les 42 régimes existants à l'horizon 2025. Mais pour l'instant, les promesses de plus d'équité, de simplification, de lisibilité ne convainquent pas. CGT, FO, FSU et Solidaires appellent avec 4 organisations de jeunesse à une première journée de grève interprofessionnelle le 5 décembre. Le collectif SOS Retraite, qui regroupe les syndicats de professionnels libéraux dotés de régimes de retraites autonomes, menace, lui, d'une action d'ampleur à partir du 3 février. Quel est donc l'esprit de cette réforme ? Elle s'inspire du modèle scandinave, volontiers cité en exemple par le chef de l'État. Au Danemark comme en Suède, les réformes des retraites ont fait l'objet d'un large consensus politique et les systèmes sont à l'équilibre. Mais seraient-ils transposables en France ? Et surtout, sont-ils si enviables qu'Emmanuel Macron semble le croire ? À l'issue de ces réformes, il y a eu des perdants, des perdantes surtout, car les carrières hachées ou incomplètes sont pénalisées. Retraite, doit-on suivre le modèle scandinave ? C'est un reportage signé Annabelle Grelier. Invité de ce grand reportage, Alain Lefebvre, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste spécialiste des questions sociales, vous connaissez bien les pays nordiques et vous êtes l'auteur du livre « Macron, le Suédois » paru en 2018 aux presses universitaires de France. Vous allez donc nous éclairer sur ce modèle scandinave. Mais d'abord un petit tour sur le terrain avec vous Annabelle Grelier. Vous êtes allée au Danemark et en Suède. Alors à quoi ressemblent les systèmes de retraite là-bas ?
Eh bien ce sont tous les deux des systèmes de retraite universels à points pour la Suède, mais pas au Danemark. Ce sont tous les deux des régimes de base par répartition et un système obligatoire complémentaire par capitalisation. Le Danemark figure parmi le meilleur système des retraites au monde parce qu'il distribue des pensions de retraite généreuses, que le système est durable et équitable. Mais c'est surtout la place des seniors, la prise en compte du vieillissement dans la société qui est assez remarquable. Que ce soit dans les entreprises, les salariés seniors sont plutôt encouragés à rester. Dans les services publics, dans la ville, des aménagements sont faits pour les aider, pour leur faciliter les déplacements. C'est une philosophie nationale. Il faut rester actif, sportif, pour retarder au maximum la perte d'autonomie. C'est bon pour le moral et c'est bon pour les finances du pays. Il ne faut aller en maison de retraite en fait qu'en dernier recours.
Mais une fois que c'est nécessaire, il est très facile d'obtenir une place en maison de retraite. Tout de suite, direction Copenhague.
Ici, nous sommes dans le nord de Copenhague et nous sommes sur un site historique qui date de 1869. À cette époque, ce bâtiment servait à la fois de prison et d'hôpital. Et avant, c'était un endroit où l'on mettait les vieux quand ils étaient pauvres. Ces gens-là n'avaient pas de place dans la société, ils étaient vus comme une nuisance. Alors on les déportait à l'extérieur de la ville. Là, c'était les champs. Ils pouvaient y faire pousser de quoi manger. Et puis, ce n'était pas trop loin pour qu'ils puissent aller mendier en ville. Les réformes ont commencé au Danemark à partir des 18e et 19e siècles. On s'est intéressé aux soins que l'on devait apporter aux plus âgés.
Au Danemark, cela fait longtemps que l'on réfléchit sur la question du vieillissement, assure Johan Ledesdorf en charge des questions relatives aux personnes âgées à la mairie de Copenhague. Avant-gardiste sur le maintien à domicile, le pays a décidé à la fin des années 90 de ne plus construire de maisons de retraite. Et c'est aux communes, au plus près des citoyens, que toute la politique de prise en charge des personnes âgées a été confiée. Moins de 5 85% des plus de 75 ans vivent aujourd'hui en maison de retraite, rénovée et adaptée aux nouveaux standards.
Et puis à partir des années 80-90, nous avons rénové et transformé ces gros bâtiments en petites unités, de petits studios, avec chacun un coin cuisine. Nous avons fait tomber le mur d'enceinte pour créer un parc ouvert sur la ville. Vous voyez sur ce site, il y a 3 ou 4 jardins d'enfants. Un parc avec des animaux, des potagers, des espaces verts, que les jeunes et les familles du quartier apprécient beaucoup. Bon, là, il fait un peu gris, il pleut, il fait froid, mais en été, c'est très vivant.
Hi, Henriette.
Salut, ça va?
Bonjour.
Oui, bonjour.
Henriette Oysten, la directrice, nous accueille pour une visite guidée. Quel âge ont vos pensionnaires?
Ils ont au moins plus de 65 ans parce que c'est l'objectif de la municipalité. Ici, ils peuvent recevoir des soins 24 heures sur 24. Il y a des infirmières, des aides-soignantes, des thérapeutes, des docteurs. Nous avons vraiment de bons professionnels qui s'occupent d'eux. Sinon, l'âge de nos pensionnaires va de 65 à 92 ans. Ils restent en moyenne 2 à 3 ans. Ils vivent ici 2 à 3 ans, puis ils meurent. En pratique, c'est un hospice, mais c'est un endroit où il y a quand même de la vie. C'est notre premier objectif, de leur créer un chez-eux, où les personnes âgées peuvent recevoir les soins dont ils ont besoin, créer un endroit où ils peuvent faire face à la mort dans de bonnes conditions. On les aide à vivre du mieux possible leurs dernières années. Nous ne décidons pas qui peut ou ne peut pas venir. C'est un droit, c'est la municipalité qui gère. Les critères d'attribution sont aussi définis par la loi. En général, cela correspond au moment où le maintien à domicile n'est plus possible, quand le nombre de soins à domicile excède un certain niveau ou qu'ils ont besoin de surveillance médicale à plein temps. À Copenhague, le nombre de personnes âgées a explosé et la municipalité doit pouvoir leur offrir une place. La loi les y oblige dans un délai de 4 semaines, mais vous ne pouvez pas choisir votre maison de retraite. Et ici, nous avons beaucoup de demandes parce que c'est une maison de retraite un peu spécialisée sur la communauté LGBT transgenre. C'est une compétence que nous essayons de maintenir, mais c'est aussi une maison de retraite où l'on prend en compte la vieillesse et la sexualité parce qu'il y a des besoins et que ce sont des sujets tabous. La mort aussi est un sujet tabous, alors on travaille avec tous ces tabous. Au Danemark, toutes les personnes âgées ont droit à une place en maison de retraite, même si vous n'avez pas d'argent. C'est la municipalité qui prendra vos frais en charge. Donc nous sommes subventionnés et même très subventionnés.
Confronté au vieillissement de la population, le Danemark a fait du bien-être de ses retraités une préoccupation centrale. Chaque commune doit avoir son conseil des seniors, une obligation légale depuis 1998. Les retraités ont également leur lobby. La très influente association Danage compte 870 000 membres, près de 200 salariés, 20 000 bénévoles et 250 antennes de quartier. Au même titre qu'un syndicat, Danage défend les intérêts des retraités auprès du gouvernement. Il est aussi un acteur important dans leur quotidien, lieu d'écoute et de soutien. Il organise également de multiples activités, loisirs et voyages. Michael Tate-Willesen, son vice-président.
I think we have to confess that we do have a rather good...
Il faut avouer que nous avons plutôt un bon système de retraite, parce que nous avons un système de pension publique qui est payé par nos impôts et qui assure à toute personne qui a passé sa vie au Danemark de toucher au moins un minimum, c'est-à-dire une pension raisonnable et décente, une pension qui permet à 99,9% de la population de vivre au-dessus du seuil de pauvreté. Donc vous avez au Danemark au moins l'assurance, quand vous êtes retraité, de vivre une existence d'assistance décente. Nous avons la chance que notre système de pension publique soit indexé sur les salaires. Donc si les salaires augmentent de 4%, les pensions de retraite augmentent de 4%. Avec pour seul détail que les pensions jusque-là subissaient une déduction de 0,3%. De ce prélèvement, le gouvernement faisait ce qu'il voulait. Tout le monde nous disait qu'il n'y avait pas moyen de mettre fin à ce mécanisme de prélèvement, mais finalement nous y sommes arrivés. Et à compter de cette année 2019, la déduction de 0,3% ne sera plus prélevée. Ça pouvait paraître un détail, mais année après année, cela faisait quand même une somme. Et aujourd'hui, les retraités peuvent le sentir et l'apprécier. Quelques petites choses ont changé. Nous avons construit un système de retraite qui, en repoussant l'âge de départ, a permis d'augmenter les pensions. Aujourd'hui, les retraités ont de meilleures pensions qu'il y a 20 ou 30 ans. Ils sont également en meilleure forme, en meilleure santé. Ils ont un meilleur niveau d'éducation. Ils sont en général bien plus actifs qu'ils ne l'étaient il y a 30 ans. Donc, indéniablement, il y a eu du bon à ce que les retraités restent en activité.
Danedge organise une multitude d'activités, cours d'informatique, de gymnastique, des cours de chant, de langues étrangères. C'est important au Danemark de faire en sorte que les retraités restent actifs.
C'est vital, c'est très important que vous ayez 60, 70, 80 ou 90 ans. Il faut que vous restiez actif et curieux, que tous les jours vous appreniez quelque chose de nouveau. Que vous ayez une activité, que vous alliez dehors pour marcher, pour rencontrer des gens, que vous ayez une passion, que vous vous proposiez pour du bénévolat. Au Danemark, les gens sont convaincus qu'il faut rester actif, absolument, faire de la danse, de la marche, apprendre une nouvelle langue, savoir se servir d'un ordinateur et de son smartphone.
Avec un âge de départ à la retraite à 65 ans, pensez-vous que les Danois sont satisfaits ? Sont-ils heureux de travailler ?
Nous constatons en tout cas que maintenant, les Danois sont plus nombreux qu'il y a 15 ans à partir après l'âge légal de la retraite. Quand ils travaillaient jusqu'à 62 ans, aujourd'hui ils vont jusqu'à 65, 66. Et la plupart du temps, ils continuent de travailler parce que leur employeur les valorise. Ils ont fini par comprendre que ce n'est pas parce que vous êtes âgé, que vous êtes plus lent ou plus idiot. Vous avez de l'expérience et vous êtes une bonne force de travail. Vous n'avez plus d'enfants à charge et vous êtes fiable. Du coup, beaucoup de gens sont d'accord pour continuer à travailler dans ces conditions. Évidemment, il y a quand même quelques ombres au tableau, parce que les Danois voient au fil des années l'âge du départ à la retraite publique repoussé toujours un peu plus loin dans le temps. Aujourd'hui, c'est 65 ans et demi, puis l'année prochaine, ce sera 66, puis 67 et jusqu'à 70 ans. Et de plus en plus de Danois se posent la question de savoir s'ils seront capables de travailler jusqu'à 70, voire 75 ans. Bon, le gouvernement actuel vient de lancer un projet de réforme sur la retraite anticipée. Donc peut-être que l'âge de la retraite va arrêter d'être repoussé.
Danedge a-t-elle pris position sur cette réforme ?
Nous pensons que c'est très bon pour l'économie, les finances du pays, si les gens travaillent plus longtemps. Mais nous pensons également qu'il faut prendre en compte ceux qui ont des problèmes de santé. Ils devraient être autorisés à prendre leur retraite plus tôt et à avoir leur pension afin de finir leur vie dignement. Donc il nous faut être vigilants et voir si l'expérience de vie en bonne santé des Danois continue réellement d'augmenter.
I am bitten In 1 month, I'm 72 years old.
Je m'appelle Biten. Dans un mois, j'aurai 72 ans. J'ai pris ma retraite à 65 ans. Je travaillais dans le social. C'était à ce moment-là l'âge normal de départ à la retraite. Maintenant, vous devez travailler plus longtemps. Alors j'ai eu de la chance de pouvoir partir. Mais si j'avais été obligée de continuer, je l'aurais fait. J'étais en assez bonne santé pour le faire. Je pense que c'est un bon choix de rester actif. Il nous faut continuer à être en phase avec le monde. Faire de l'exercice, nous allons au théâtre, au cinéma, à des expositions. Et donc, il faut être en bonne santé pour faire toutes ces choses. Je n'aime pas l'idée d'être vieille au point de ne plus pouvoir être autonome. Je n'ai pas du tout envie d'aller dans une maison de retraite. Je préfère rester dans mon joli petit appartement en centre-ville. Et si je n'étais plus capable de me débrouiller toute seule, je ne peux imaginer finir dans cet endroit.
Pourquoi vos maisons de retraite ne sont pas bien?
Avant, elles étaient bien, mais maintenant, c'est bizarre. En fait, on vous y envoie quand vous êtes malade ou que vous n'avez plus toute votre tête. Mais c'est pas très gai comme endroit. Dans le Jutland, j'ai vu qu'il y avait des maisons de retraite privées. C'est vraiment charmant. Les personnes âgées qui y vivaient avaient l'air heureuses. Mais dans les maisons de retraite normales, ce n'est pas aussi bien. Je pense que c'est surtout parce qu'ils ont besoin d'argent. Les infirmières sont toujours en train de courir, toujours plus vite pour faire leur travail. Elles n'ont pas le temps de s'asseoir avec vous pour parler. J'espère que si un jour je me retrouve dans cette situation, qu'il faille me mettre en maison de retraite, j'espère vraiment que mes amis me trouveront un endroit agréable. Mais bon, j'espère surtout que je resterai chez moi jusqu'à ma mort. Et c'est pour ça que je fais plein de choses dans ma vie, pour rester en forme. Je fais beaucoup d'exercices, 3 fois par semaine. Mais je bois aussi du vin rouge, parce qu'on prend du bon temps. Mais bon, je ne fume pas et je ne bois pas tous les jours, mais j'aime bien m'amuser. Et ici, c'est quand même un bon pays pour vieillir. Je ne changerai de pays pour rien au monde. J'aime bien aller à l'étranger, j'aime bien aller en France, mais mon souhait est de rester au Danemark pour toujours.
Au Danemark, tous les efforts convergent vers un seul objectif: rendre les retraités le plus autonomes possible afin de retarder au maximum l'entrée en maison de retraite, toute financée avec l'argent public et considérée aujourd'hui comme le dernier recours. Les communes assurent aux aînés des aides à domicile, des soins médicaux, le portage des repas, organisent des cours d'aérobic, des randonnées et des ateliers de réminiscence pour prévenir la maladie d'Alzheimer. Des permanences téléphoniques fonctionnent de jour comme de nuit et tous ces services sont gratuits. Pour maîtriser les dépenses de santé, le Danemark est très avancé sur la numérisation de son système de santé.
Je m'appelle Nana Skovgaard, je suis en charge de la numérisation du système de soins au ministère de la Santé du Danemark. Nous travaillons à un système sécurisé et accessible aux personnes âgées. Je pense que pour le Danemark et comme pour les autres pays de l'OCDE, nous sommes confrontés au problème du vieillissement de la population. La démographie change. Dans les années à venir, nous aurons de plus en plus de personnes âgées souffrant de maladies chroniques qui vivront de plus en plus vieilles. Les personnes âgées souffriront également de certaines maladies qui nécessiteront plus de prévention et de soins. C'est vraiment notre défi pour les 10 prochaines années. On en parle depuis longtemps, mais c'est aujourd'hui une réalité. Le nombre d'octogénaires est en train d'augmenter drastiquement. Et parallèlement, nous manquons déjà de personnel de soins pour assurer les soins. Nous devons donc élaborer de nouveaux modèles pour prendre soin de cette population âgée dans les prochaines années. Au Danemark, nous pensons que les gens n'ont pas à aller à l'hôpital tant qu'ils n'en ont pas vraiment besoin. Nous cherchons une façon de maintenir les personnes âgées le plus longtemps possible à domicile. Of elderly people closer to their homes or even in their homes, and to do that we look at. Il s'agit de former à de nouvelles méthodes le personnel de soins, de trouver les bons outils numériques, d'organiser la coordination des soins entre tous les acteurs de la santé. General practitioners and then local municipality nurses. Bien sûr, il s'agit d'aider les personnes âgées à être autonomes. Peut-être je pourrais vous donner un exemple. Sur une de nos communes, nous avons une femme de 92 ans. Elle se débrouille très bien toute seule, elle fait ses courses elle-même, etc. Mais dernièrement, elle craignait de glisser ou de tomber en prenant sa douche. Donc maintenant, quand elle prend sa douche, elle appelle l'infirmière de sa commune, elle laisse son téléphone dans la salle de bain, l'infirmière peut l'entendre, peut savoir si ça se passe bien, et quand elle a fini, elle reprend le téléphone et elle la remercie, tout va bien, bonne journée. Si un accident venait à se passer, l'infirmière l'aurait su tout de suite et aurait pu intervenir. C'est un petit exemple, cette dame qui s'inquiète, on a trouvé cette solution, ça la rassure et elle peut rester tranquille chez elle. Dans toutes les communes, nous expérimentons de nouvelles façons de venir en aide aux plus âgés. Il n'y a pas de modèle unique que nous pouvons mettre en place, mais je dirais que c'est une tendance, un mouvement que nous avons lancé. D'un côté, chacun doit être capable de se prendre en charge, et de l'autre, vous devez pouvoir avoir confiance. Si vous avez besoin d'aide, il y aura quelqu'un pour vous aider. C'est une meilleure coopération entre le personnel de santé, les familles et les personnes âgées.
Et est-ce que ça marche? Les personnes âgées sont satisfaites de ces nouveaux outils?
L'objectif, c'est vraiment de trouver la meilleure manière de permettre aux personnes âgées de rester le plus longtemps possible chez elles. Comment peut-on vous aider? Si vous avez des problèmes avec vos escaliers ou pour faire vos courses, si vous avez un problème avec vos hanches, peut-on envisager une rééducation? Avant, on avait coutume de dire, si vous avez besoin d'aide, on vous en apportera. Et aujourd'hui, c'est plutôt que de venir vous aider, peut-on faire quelque chose qui vous aiderait à vous débrouiller seul? Parce que derrière tout ça, c'est de l'argent public payé sur nos impôts qui finance ce système, donc il nous faut l'employer de la meilleure façon possible. Les gens ici préfèrent être autonomes, rester maîtres de leur vie. Donc s'ils peuvent se passer de l'aide d'une assistante médicale pour aller aux toilettes, c'est mieux. Les personnes âgées, parfois encore plus que les autres, tiennent à leur intimité. Elles n'ont pas envie d'être dépendantes. Si on prend l'exemple de cette dame de 92 ans, plutôt que d'avoir une infirmière qui vienne chez elle surveiller au moment où elle prend sa douche, si la surveillance peut se faire par téléphone, que cela lui suffit, eh bien pour nous c'est un gain de temps et ça libère une infirmière qui pourra se rendre au chevet de quelqu'un qui en aura plus besoin. Il s'agit d'évaluer les besoins des personnes âgées. On doit pouvoir s'adapter à chaque cas. Peut-être que des outils numériques conviennent à certaines, donc nous devons les encourager. Nous ne voulons pas un système unique et le même pour tout le monde. Nous voulons différents modèles qui s'adaptent aux besoins de chacun. Ce n'est pas abandonner les gens à leur sort, mais c'est faire bon usage de nos moyens, à la fois pour la société et les personnes âgées. On se rend compte que les gens sont capables de faire plus si vous leur en donnez la possibilité. Je ne connais pas les chiffres exacts, mais je pense que 90% des gens sont connectés à Internet, y compris les personnes âgées. Elles communiquent sur Skype avec leurs petits-enfants, elles s'occupent de leur compte bancaire en ligne. Alors, on ne voit pas pourquoi elles ne pourraient pas communiquer sur Skype avec leur médecin parce que c'est plus commode. Cette solution n'est peut-être pas la meilleure pour tout le monde, mais si 50% des personnes âgées disent « je préfère le faire sur mon ordinateur », eh bien ça laisse plus de place et de temps à celles qui préfèrent voir le docteur ou leur infirmière. N'oubliez pas, aujourd'hui ces personnes âgées ne sont peut-être pas nées avec l'informatique, mais dans quelques années, nous aurons tous l'habitude de ces outils et nous voudrons continuer à les utiliser une fois la retraite. Je pense que c'est un mouvement qui est parti, qui se diffuse dans toute l'Europe.
Au Danemark, les réformes des retraites ne passionnent pas le débat comme en France. Pays de consensus et de cohésion sociale, il a été admis que les Danois, au regard de la démographie et de l'allongement de l'espérance de vie en bonne santé, devaient travailler plus longtemps. aujourd'hui fixé à 65 ans et demi, l'âge légal du départ à la retraite sera repoussé d'année en année, 66, 67 ans d'ici 2021. Et parce que le pays connaît le plein emploi et un manque de main-d'œuvre, il n'est pas rare que les Danois continuent de travailler ou même qu'après une carrière, ils prennent un petit job. Le gouvernement sociodémocrate au pouvoir depuis juin dernier avait fait la promesse pendant sa campagne de mener une réforme sur la retraite anticipée. Une réforme qui soulève la notion de la pénibilité du travail. Syndicats patronaux et de salariés sont en négociation jusqu'à la fin de l'année. Alors que les jeunes générations sont appelées à travailler au-delà de 70 ans, doit-on encore permettre à certaines professions de s'arrêter plus tôt? Au hasard d'une pause déjeuner, nous avons demandé à Kenneth, jeune employé d'une compagnie d'assurance, ce qu'il en pensait.
Je m'appelle Kenneth, j'ai 33 ans. Étant encore jeune, ma retraite peut paraître lointaine, mais ça ne veut pas dire que je ne me sens pas concerné. Si les choses restent en l'état, il me faudra attendre au-delà de mes 70 ans pour être à la retraite. Et des fois, je me demande si je serai capable de travailler aussi longtemps. Ils disent que nous vivons plus longtemps, donc nous pouvons travailler plus longtemps. Mais qu'est-ce qui se passera si je ne peux pas et qu'à 65 ans, je dois encore travailler au moins 7 ans de plus pour avoir une retraite à taux plein? C'est ça qui me tracasse. C'est vrai que beaucoup de gens font de leur mieux. Certaines organisations et des grosses entreprises se donnent les moyens pour créer des emplois et maintenir les seniors en activité. Par exemple, nos entreprises de transport public recrutent des chauffeurs de bus déjà sexagénaires. Les supermarchés ont mis en place des stratégies pour attirer des travailleurs seniors. Dans la supérette de mon quartier, par exemple, l'employé de l'année est un homme de 72 ans. Il était directeur d'hôpital et au lieu de prendre sa retraite, il a continué de travailler dans ce magasin comme caissier. Et c'est un type adorable. Les supermarchés savent y faire pour embaucher des gens comme lui. Donc je pense que pas mal de choses ont été assez bien faites pour encourager les gens à travailler plus longtemps. Le grand débat du moment est de se demander si nous devons autoriser certaines professions à partir à la retraite plutôt que d'autres. Autant, je peux comprendre qu'on se pose cette question parce qu'il y a des emplois qui sont physiquement ou mentalement plus difficiles que d'autres, mais je pense que c'est quand même dangereux. Et puis, qui va décider de ça? Ça risque tout de même de créer des distances entre nous.
I think it has the potential to only create more distance between us.
Pourquoi mon voisin charpentier mériterait plus que moi? Ça risque tout de même de mener à un manque de confiance. On pourrait penser que le travail de certains a moins d'importance que ceux des autres, que ma contribution à la société aurait moins de valeur que celle d'un autre. Ça risque de créer pas mal de conflits. Nous sommes un pays uni. Nous sommes solidaires les uns des autres. Ça pourrait nous amener à être plus individualistes, ne penser qu'à nous. C'est du moins ce que je crains. Mais d'un autre côté, c'est bien aussi d'ouvrir ce débat. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Quelqu'un devra bien répondre à nos questions. Le gouvernement devra trancher si oui ou non, certains pourront partir plus tôt à la retraite. Ce débat est important parce que, tel que c'est parti, l'âge de la retraite va continuer d'être repoussé. Donc, il va bien falloir finir par en parler. Au Danemark, nous avons un contrat entre les générations. Mes parents payent leurs impôts avec plaisir pour que je puisse avoir accès à un bon système éducatif et qu'ils puissent avoir un bon système de santé quand ils deviendront vieux. Et moi, je paye mes impôts pour mes enfants et m'assurer que mes parents vieilliront dans de bonnes conditions. Ce contrat est celui que nous avons de plus important dans notre société. Nous devons de maintenir ce contrat et de faire les efforts pour le conserver. Parce que si nous perdons la confiance en une société qui serait là pour nous aider, alors je ne sais vraiment pas ce qui pourrait se passer.
Yeah, I don't know what's going to happen.
Chez leurs voisins, en Suède, on s'est beaucoup inspiré de la flexi-sécurité danoise. Dans les années 90, toute une série de réformes ont été lancées, portant sur les services publics, l'emploi, la fiscalité et les retraites. La Suède a pris 10 ans pour mettre en place son système dit notionnel, un système par points que l'on cumule au fil de sa carrière. Et plus on part tard, plus la pension est élevée. Jan Andersson était député au Parlement suédois dans les années 90. Cette réforme lui avait paru juste et nécessaire. 30 ans plus tard, il est devenu le président de la puissante association de retraités, PRO, pour le sud du pays, et il ne se prive pas aujourd'hui de la critique.
J'étais au Parlement, et à ce moment-là, nous étions tous d'accord. Nous devions faire quelque chose pour notre système de retraite. Et nous étions tous d'accord à cette époque. Il y avait un large consensus des partis politiques sur cette question.
Combien de temps en aviez-vous discuté ?
À peu près 10 ans. Et les 3 dernières années, un groupe de parlementaires et d'experts ont travaillé sur les détails de cette réforme. Nous l'avons votée en 1994.
Donc maintenant que la réforme a été appliquée, qu'en pensez-vous ? Quels sont ses points faibles ?
Oui, il y a des faiblesses. Nous avions promis que ce système de retraite devait être aussi bon que le précédent. Les pensions devaient atteindre au moins 60% du salaire. Et comme à peu près tous les Suédois avaient 10% de plus négociés par les partenaires sociaux, nous devions arriver à 70% de votre dernier salaire. Mais ce n'est pas vraiment comme ça aujourd'hui. Les pensions n'ont pas suivi les salaires comme promis. Et en plus, quelques années plus tard, ils ont décidé de mettre en place ce qu'on appelle le frein. C'est lorsque les fonds de pension n'ont pas assez d'argent pour couvrir toutes les pensions. Alors ils peuvent les baisser. C'est arrivé 3 fois, en 2010, 2011 et 2014. Et pendant ces 3 années, les retraités ont eu des pensions qui n'avaient jamais été aussi faibles. Et ça, personne ne leur avait dit aux retraités. Dans notre organisation, nous pensons que nous ne devrions pas avoir ce frein. Il devrait être abrogé. Mais il y a d'autres choses à corriger. Nous pensons que les pensions devraient suivre le niveau des salaires. Nous avons une bonne réévaluation de salaire en Suède, mais pas du tout en ce qui concerne les pensions. Alors l'écart entre les salaires et les pensions ne fait que s'accentuer au fil des années. Et c'est inacceptable. Ils avaient promis que les pensions seraient indexées sur les salaires.
Et l'autre point faible du système concerne les femmes.
Oui, beaucoup de femmes travaillent en Suède, presque toutes, parfois à mi-temps. Quand elles deviennent retraitées et que le mari vit toujours, elles se débrouillent, parce que les hommes ont de bonnes pensions. Mais quand le mari vient à mourir et que la femme se retrouve seule, elle se retrouve avec une pension très faible. Nous disons, quand tu travailles, ça devrait se voir sur ton salaire. Et quand tu es retraité, ça devrait se voir dans ta pension que tu as travaillé. Pour ces femmes, on ne peut pas dire ça, parce qu'elles ont juste un peu plus que si elles n'avaient jamais travaillé de leur vie. Et ça, c'est un gros point faible, sans doute la plus grosse injustice.
Alors, plus de 20 ans après, qu'est-ce que vous en pensez de cette réforme ?
Je pense que l'État est convaincu que le système est bon, parce qu'il a réussi à obtenir un accord, et parce que l'État ne prend aucun risque en cas de crise. Tous les risques sont sur les épaules des retraités, si on compare notre système de retraite à celui de la Norvège, qui a un système qui ressemble beaucoup au nôtre, mais qui est meilleur, parce que le risque chez eux est partagé par l'État et les retraités. Dans les années de mauvais résultats économiques, l'État s'engage à compenser.
Vous pensez que vous allez pouvoir changer quelque chose dans cette réforme ?
On l'espère, mais ce n'est pas facile, parce que normalement ce genre de question est débattu au Parlement suédois. Mais tout changement doit être décidé par un petit groupe de parlementaires qui peuvent prendre ces décisions. J'ai coutume de dire que c'est un peu comme l'élection du pape. Chaque parti politique a un veto et il peut s'opposer à la moindre modification. Et maintenant, en plus, ils viennent de décider que nous devrions travailler plus longtemps. Nous pensons que la première chose à faire serait d'augmenter les cotisations au-delà de 8,5%. Comme ça, on pourrait augmenter les pensions. Si notre système de retraite reste en l'état et que rien ne se passe, ils finiront avec des pensions de retraite à la hauteur de 45% de leur dernier salaire. Il faut faire quelque chose, mettre plus d'argent dans le système. Et puis il faut faire évoluer le travail. Les femmes doivent avoir le même salaire que les hommes.
Petit clin d'œil avec le générique de la série danoise Borgen. Retraite, doit-on suivre le modèle scandinave? Un reportage d'Annabelle Grelier avec François-Charles Domergue à la réalisation.
Grand reportage, Aurélie Kiefer.
Le journaliste Alain Lefebvre, spécialiste des questions sociales et des pays nordiques, est l'invité de Grand Reportage. Alors on voit qu'il y a à prendre et à laisser dans les systèmes danois et suédois, des systèmes dont la France s'est d'ailleurs déjà inspirée, Alain Lefebvre.
Oui, à plusieurs reprises, puisque Gérard Larcher et François Fillon sont venus dans les pays nordiques pour s'inspirer des modèles sociaux nordiques, en particulier la réforme à l'époque menée par François Fillon, avait été totalement inspiré par son voyage qu'il a effectué avec les syndicats. Donc avec tous les syndicats sur la CGT, il est allé en Suède et puis il est allé en Finlande. Et après avoir vu le système suédois et le système finlandais, il a décidé que le système finlandais, qui ressemble beaucoup au système français, qui a été amélioré, était un bon modèle et qu'il a laissé tomber le système suédois. On y est revenu maintenant.
Alors, ce système suédois, il est quand même impressionnant par le temps de la négociation, quand on voit qu'ils ont passé 10 ans à discuter.
Moi, j'ai 15 ans, mais je suppose que c'est parce que j'ai compté les négociations entre partenaires sociaux qui ont eu lieu avant. Ensuite, il y a des négociations politiques, des négociations de groupes d'experts. Rien n'a abouti. Et à la fin, les partis politiques ont dit qu'ils désignaient chacun un ou deux membres du Parlement et que il suivrait tout accord passé entre ces membres du Parlement, ce petit groupe de parlementaires dont on a parlé dans le reportage.
Mais des négociations à huis clos.
Absolument, à huis clos, parce qu'ils ne voulaient pas...
Ça évite la polémique.
Ils ne voulaient pas avoir d'experts ou de gens... ils voulaient entendre les experts, mais ensuite ils voulaient discuter entre eux librement. Et il y a un livre qui a été écrit dessus par une membre du groupe qui s'appelait Madame Gensen, et qui est très très intéressant parce qu'il montre à quel point le fait de ne pas avoir d'influence extérieure, ça a permis d'avoir un consensus. Parce que contrairement à tout ce qu'on raconte, il y avait une énorme bataille en Suède sur la question des retraites. Au moins aussi grande qu'ici en France en ce moment.
Seulement ça ne se voyait pas dans la rue, c'est ça?
Il manifeste moins dans la rue, mais c'est plutôt du lobby et des refus et des menaces, etc. Non, les Nordiques sont aussi actifs en cas de réforme que les Français.
Donc au départ, il y avait vraiment grand écart entre les positions des uns et des autres.
Absolument.
Et au fil du temps, ils ont réussi à rapprocher.
Publiquement, tous avaient des positions différentes. Ils avaient le même objectif qui était de sauver le système. À l'époque, on craignait pour les banques suédoises. On était dans une situation économique avec une baisse du PIB de 15 à 20%, etc. La situation était dramatique. Ça aide aussi. Et ensuite, on n'arrivait pas à trouver un consensus, donc les gens se sont réunis à huis clos, en petits groupes, les huit principaux partis politiques, 85% qui représentaient 85% des membres du Parlement. Et là, ils ont pu s'expliquer, écouter les experts et démêler le vrai du faux. Et chacun a obtenu quelque chose.
Et il n'y avait pas de fuite dans la presse pendant les négociations?
Non, ils ont soigneusement évité ce genre de choses. Parce qu'ils savaient qu'ils n'aboutiraient pas si jamais... Même les membres de leur parti étaient au courant de ce qui se disait. Par contre, à la fin, oui, chacun a consulté avec son groupe parlementaire. Et il faut savoir que le gouvernement a changé juste au moment où la réforme devait être adoptée. Les sociaux-démocrates, c'était la droite qui était au pouvoir. Les sociaux-démocrates sont arrivés au pouvoir. Ils avaient dit qu'ils prendraient la réforme telle qu'elle serait décidée, mais ils ont pas mal hésité. Ça a pris 3 à 4 mois de discussion au sein des sociaux-démocrates. Mais finalement, la raison a dominé.
Parce que c'était vraiment un compromis, c'est-à-dire que ça ne correspondait au projet d'aucun des partis.
Oui, il y a une petite partie qui est par exemple de capitalisation, sans laquelle les conservateurs n'auraient jamais accepté le compromis. Et il y a une part quand même de retraite de base. Il faut dire qu'un retraité en Suède... En retraite de base, qu'on appelait autrefois le minimum vieillesse, je sais pas quel est le terme actuel, un retraité de base touche 50 à 60% de plus que ce qui touche en France en pouvoir d'achat égal. Donc ça veut dire que ça a été demandé par les sociaux-démocrates. Donc il y a eu un peu de tout pour tout le monde. Et ils voulaient un système qui soit pérenne, plus ou moins, parce qu'il y a eu quelques réformes depuis, il y en a encore une en cours, on a entendu. Mais ils sont arrivés à un système qui s'équilibre automatiquement.
Alors il y avait des petites lignes quand même qui, visiblement, selon Jan Andersson, ce député suédois, n'étaient pas vraiment bien écrites, en tout cas trop petites, sur le frein, ce fameux frein qui permet de baisser les retraites en période de crise.
C'est très clair que les retraites sont indexées sur la moyenne des salaires. Il y a un calcul très compliqué qui est fait là. Il y a une avance sur l'évolution des salaires qui est faite. Et c'est vrai que dans certains cas, il était possible, et ça se savait dès le départ, c'était dans le document soumis au Parlement. Si la croissance baisse et les salaires baissent, eh ben les retraites baissent aussi un peu moins, parce qu'il y a un système de buffer de fonds qui aide, qui empêche que les gens perdent trop. Mais les retraités ont perdu un peu pendant 2 ou 3 ans, effectivement. Il y a eu une grosse crise.
Il y a des lissages, mais effectivement, l'idée, c'est d'avoir un système vertueux, c'est-à-dire qu'on ne va pas transmettre la dette aux générations suivantes. C'est bien ça le principe,
oui,
de rester à l'équilibre.
Ils ont voulu, en fait, à la retraite, il y avait 2 objectifs qui seraient valables en France maintenant. C'est pas transmettre aux travailleurs, aux jeunes, à nos enfants, des dettes, donc c'est intergénération et intragénération, donner plus à ceux qui ont eu des carrières courtes, etc. Ils ont essayé de maintenir un système qui permettait aux gens de quand même de ne pas trop perdre avec le nouveau système. Mais ça n'a pas bien marché.
Oui, parce que quand même les femmes dans ce système, enfin, on dit que ce sont les grandes perdantes de ce système de retraite.
Par rapport à l'ancien système, 94% des femmes ont eu moins avec le nouveau système qu'avec l'ancien.
Alors c'est impressionnant quand même ces chiffres, mais c'est quand même passé, et les personnes n'ont pas protesté, elles ont considéré que c'était un sacrifice nécessaire.
C'était absolument un sacrifice nécessaire parce qu'on savait que le régime de retraite s'écroulait en 2015. C'est-à-dire que non seulement c'était un déficit, mais un déficit que personne n'aurait pu combler. Donc forcément, il y a eu des sacrifices à faire. Donc 40% des hommes, mais le problème c'est que les femmes se sont arrêtées de travailler pour élever leurs enfants. Malheureusement, elles ont subi. Alors les Suédois ont des systèmes de compensation pour ça, comme je pense on en aura en France si la réforme va au bout. Mais ce que donne l'État pour compenser et mettre dans le système de points pour les années que vous passez à vous occuper des enfants, c'est pas le salaire moyen que vous avez pendant toute votre carrière.
C'est assez dérisoire.
Donc vous y perdez, c'est dérisoire. Même chose pour les étudiants, on parle des professions libérales. Quand on fait des études de médecine et qu'on fait 12 ans parce qu'on fait l'internat, pendant les 12 ans, on ne contribue pas à plein. Donc après, vous avez des gens, j'ai des amis chirurgiens au Danemark, en Suède, je veux dire, qui à la fin m'ont expliqué qu'ils sont obligés de travailler jusqu'à 72 ans parce que sinon leur retraite n'a pas grand chose à voir avec le salaire qu'ils touchaient.
Mais donc si ce système a été accepté, c'est parce qu'il y avait un sentiment d'urgence, mais c'est aussi une mentalité peut-être un peu différente de la nôtre, avec une plus grande solidarité, un esprit plus pragmatique. Comment est-ce que vous qualifieriez cet état d'esprit ?
Oui, la solidarité est plus facile en Suède par rapport à la France, c'est parce qu'en France, nous avons, après la Révolution, après la Libération, on a adopté un système copié sur le système allemand et nordique d'ailleurs de l'époque, qui est le système qu'on appelle français de sécurité sociale, qui est bismarckien en fait. Et donc, mais tous ceux qui avaient la possibilité de s'en sortir, en sont sortis. Donc on dit maintenant 42 régimes, on devait en avoir beaucoup plus à l'époque. Et comment voulez-vous être solidaire si vous avez 42 régimes? Même la Cour des comptes est incapable de calculer, de comparer les régimes entre eux. Donc comment est-ce que je peux me sentir solidaire de, je sais pas, un agriculteur qui a un régime totalement différent, un notaire qui a un régime totalement exorbitant par rapport au reste des Français, etc. Donc il n'y a pas vraiment de collectivité française des retraités, parce qu'il n'y a pas d'association de retraités. Il y a sûrement des associations de retraités dans tel ou tel groupe, mais pas quelque chose de collectif et puissant qui pourrait s'exprimer politiquement, ce qui existe en Suède, en Finlande, en Norvège, parce que ce sont des systèmes universels. Tout le monde est dedans.
Et avec un sentiment plus fort de cohésion sociale.
Oui, tout à fait. Et alors, autant on peut se poser des questions sur l'utilité de faire la réforme de retraite en France pour des raisons financières aujourd'hui, parce que le comité d'orientation de retraite répète que bon, la situation n'est pas si dramatique et que le système est à peu près équilibré pour le futur. Mais par contre, ces 42 régimes, c'est insoutenable à long terme. On est un pays, on n'est pas 42 groupes qui chacun crient de leur côté et s'accordent des avantages parce que leur démographie est intéressante. Et quand la démographie en France d'un régime devient négative, devient mauvaise, que les gens sont en déficit, ils vont dans le régime général, et c'est les gens de régime général, comme nous, qui est payant pour les professions qui ont voulu un régime spécial parce que c'était plus avantageux.
Donc à minima, il faudrait plus de transparence, déjà qu'on oui. sache exactement où on en est.
On sait, mais on est incapable de faire de compter parce que il y a des plafonds différents, des taux différents. Il faut lire les conclusions du rapport de la Cour des comptes, c'est complètement hilarant. Nous avons été incapables de faire le calcul, et c'est la Cour des comptes.
Alors pourquoi Emmanuel Macron se réfère toujours à ce système suédois, que visiblement Fillon, lui, ne trouvait pas assez bien?
Non, Fillon trouvait ça très bien, il a dit, mais il a dit, c'est en France, ça va déclencher,
il voyait pas comment
déclencher une révolution, parce que il va y avoir des gens qui vont gagner, des gens qui vont perdre, et tout le monde, il va y avoir un changement pour tout le monde. Et jusque-là, en France, on a plutôt adopté un système, je dirais, très finlandais, où de temps en temps, le gouvernement fait une grande réforme qui, en fait, aboutit sur des petites choses, des petits correctifs. Mais si vous regardez la somme de tous ces correctifs sur 20 ans, on a un système qui s'équilibre. Par contre, il est injuste, inégal, injuste. Et ensuite, les petites retraites sont vraiment ridicules par rapport à ce qu'on trouve dans les pays nordiques. Alors, on pourrait très bien faire une réforme sans transformer un système à points qui va nous poser des problèmes. D'un autre côté, il faut reconnaître que le système à points, tous les Français connaissent, parce qu'on a tous à Agir, Carco, les régimes des fonctionnaires, etc. On connaît les régimes de retraite à points, donc on peut s'adapter, je pense. Donc peut-être que la réforme peut aller jusqu'au bout, la CFDT y était favorable au départ, mais il va falloir corriger la situation des gens qui s'arrêtent parce qu'ils sont malades, des gens qui s'arrêtent parce qu'ils sont au chômage, des gens qui s'arrêtent parce qu'ils s'occupent de leurs enfants, et des gens qui font des études longues. Tous ceux-là sont désavantagés avec ce genre de système. Donc tout va dépendre de la négociation pour ces gens-là. Et là, je crains que ce soit très difficile, parce que le gouvernement français, contrairement à ce qui se passe dans les pays nordiques, on négocie, en France, on consulte. Quand on négocie, à la fin, il y a une sorte de consensus, même si tout le monde n'est pas content, ça arrive souvent, il y a des protestations, mais à la fin, on arrive à une sorte, non pas de consensus, mais tout le monde a compris le problème, tout le monde a compris comment le gouvernement veut résoudre le problème.
Au moins un accord.
Et il y a une partie des syndicats qui est d'accord, peut-être tous d'ailleurs, dans certains cas. En France, comme on ne négocie pas, on demande aux syndicats leur opinion, on revient avec notre proposition. Et ensuite, on repart et on va dans la rue, et etc. Donc, on arrive à des situations, on arrive à une réforme qui, en fait, est moins bonne, je dirais, que si vraiment on prenait le temps de s'écouter.
Alors là, c'est quand même, on peut peut-être se dire que c'est un peu différent cette fois-ci, parce que l'exécutif a changé de tempo là dans cette deuxième partie du quinquennat. Aujourd'hui, il n'est plus question de foncer. Il y a les consultations citoyennes jusqu'à la fin de l'année. Il y a un texte dont on nous dit que il n'est pas du tout figé. Donc on peut dire, ben non, en fait, là, il est encore temps d'apporter ses contributions et de négocier.
Absolument. Quand j'ai envoyé mon livre à la présidence de la République, et Mme Macron m'a répondu. Alors, il y a un carton type qu'on envoie à tous les auteurs qui signent ou autre. Mais ensuite, il a rajouté tout un texte où il m'expliquait pour la réforme des retraites que je voyais assez juste. Et il m'a dit que sur la retraite, ne vous inquiétez pas, je connais le modèle suédois et j'en connais les limites. Alors, ça me rendrait plutôt optimiste. Ça veut dire qu'il a compris qu'on ne pouvait pas le transférer tel quel. Parce que tout montre qu'il y a des problèmes dans le système suédois. Donc, peut-être qu'il va écouter ce que lui dit, notamment la CFDT, qui a beaucoup analysé le système suédois. Mais enfin, la CGT était à Stockholm encore récemment, donc tout le monde regarde de près ce qui se passe dans les pays nordiques.
Et donc, ce qui est le plus problématique à vos yeux, ce qu'il faut absolument éviter, qu'est-ce que c'est ?
Je crois que les problèmes, c'est d'abord les petites retraites sont beaucoup trop petites et toutes les réformes qui ont réussi, en général, ont beaucoup augmenté. Bon, au Danemark, on parlait du Danemark, les gens ont 20 000 euros, près de 2 000 euros par mois, enfin 1 800 euros par mois. Donc c'est un peu différent des 700 ou 800 euros que les Français touchent quand ils ont une retraite minimale. Et ensuite, il y a justement ces carrières qui sont incomplètes, qui font que les gens vont se retrouver... souvent se retrouver pauvres à la fin de leur carrière. J'avais dans ma famille un trésorier payeur général qui était arrivé trésorier payeur général après avoir commencé sa carrière comme balayeur dans la trésorerie. Il avait petit à petit monté les échelons et était très heureux payeur général. Ben, cet homme, avec la réforme, aurait touché une retraite qui n'aurait pas été la moitié de celle d'un autre trésorier payeur général, qui lui serait né trésorier payeur général, si j'ose dire. Donc, il faut qu'on réfléchisse à l'équité. L'équité entre générations, l'équité au sein des générations. Et est-ce que quelqu'un qui progresse dans sa carrière doit être plus maltraité que quelqu'un qui est au top, sort de l'ENA, comme Emmanuel Macron, et reste pas président, mais à haut niveau pendant longtemps. Alors, il y a l'autre élément. Après, il y a la grosse question qui est celle de l'indexation. Parce que dans les pays nordiques, en général, l'indexation se fait sur les salaires. Pourquoi ? Parce qu'on considère que les retraités sont ceux qui ont bâti le pays. Et si on a de la croissance et on est riche maintenant, c'est entre autres parce que ces gens-là ont travaillé. Et en fait, tout bénéfice futur de la croissance, dont ils sont en partie responsables, on les en élimine. Donc là-bas, c'est considéré comme inacceptable. Il y a une solidarité vis-à-vis des anciens qui ont bâti le pays et qui ont créé tout le système qui existe actuellement. Alors, bon, on peut discuter des éléments démographiques et autres. Il y a peut-être un moment difficile à passer avec la génération des gens nés dans les années 50, début des années 50, fin des années 40. Mais je pense que quand même, il faudra remettre sur la table cette question.
Et puis, il y a la notion du travail aussi, qu'il faudrait peut-être faire avancer en France, parce que travailler plus tard en France, c'est pas tout à fait le sentiment. D'abord, les Français n'en ont pas forcément envie, mais parce que le travail, c'est les entreprises elles-mêmes n'en ont pas vraiment envie non plus.
Oui, alors la question de l'employabilité des seniors, c'est une vraie problématique en France. On entend là, dans l'exemple danois, que les entreprises vont chercher les gens. Enfin, en tout cas, c'est ce qui ressortait de ce témoignage où on se dit, les seniors trouvent largement la possibilité, s'ils le souhaitent, de travailler.
Oui, il y a eu de gros efforts faits dans tous les pays par les entreprises pour pouvoir mieux intégrer les seniors. C'est d'autant plus vrai qu'ils manquent de main-d'œuvre. Il y a beaucoup de postes vacants, donc ils ont besoin de l'expertise des seniors. Alors ils ont aménagé les postes de travail pour que les gens puissent continuer à travailler sans que ce soit trop pénible. Et il y a beaucoup de systèmes de retraite flexibles, c'est-à-dire vous prenez la retraite à 25%, 50%, 75%, et vous pouvez faire d'autres activités en dehors. Si vous êtes à 25%, à 50%, vous pouvez faire d'autres choses à côté, mais vous pouvez continuer à travailler dans votre entreprise. Mais ça suppose que l'entreprise soit flexible, et nous, nos entreprises sont beaucoup trop hiérarchiques. Elles sont beaucoup trop strictes. Il n'y a pas de flexibilité dans l'entreprise. C'est ça, la flexibilité nordique. L'entreprise peut se réorganiser pour pouvoir conserver ses seniors.
Et il y a manifestement une conception du travail différente, parce que chez nous, un ancien directeur d'hôpital qui devient caissier, ça paraît quand même assez
ça serait
étonnant.
Non, mais je comprends tout à fait cet homme, parce que j'en ai, dans le pays nordique, il y a effectivement des gens qui prennent des travaux moins qualifiés quand ils sont âgés, et ils travaillent à temps partiel, mais ils veulent voir des gens.
Mais oui, bien sûr. Comme non, mais dit, ça se comprend tout
voisin,
à fait. Mais...
Je ne vais pas rester dans ma cuisine à lire mon journal avec ma tasse de café sur ma table en formica, ce qui est un peu l'image typique finlandaise. J'habite en partie en Finlande, en partie en France. Donc il me dit, je ne vais pas faire ça. Donc il est allé prendre un travail de manutention ou autre. Bon, il faut dire aussi que les postes de travail, la pénibilité, ils ont beaucoup travaillé là-dessus pour éliminer, par exemple, les métiers de la forêt en Finlande. Vous faites, maintenant vous coupez les arbres, vous êtes dans une machine qui est air-conditionnée, vous êtes assis sur un siège qui est bien adapté et vous n'avez pas besoin de force physique pour le faire. Il y a 20 ans ou 30 ans, c'était assez différent.
Alors cette question de la pénibilité, elle est évoquée notamment par Kenneth, qui est ce jeune homme inquiet d'éventuelles divisions. Il a peur qu'on oppose les uns aux autres si cette question de la pénibilité est vraiment abordée dans la réforme de la retraite anticipée.
Oui, c'est intéressant. J'avoue que j'étais très intéressé. J'ai jamais entendu parler. Je n'ai jamais entendu ce genre d'argument en France dans les débats. Et je crois que je poserai la question aux amis syndicalistes pour savoir quelle est leur opinion sur le sujet, oui.
Mais la pénibilité, de par la formation aussi, fait qu'on c'est un sujet moins lourd dans l'Europe du Nord.
Je crois que il y a un gros travail fait pour intégrer les seniors dans les entreprises, et y compris dans les entreprises où on effectue des travaux physiques. Donc, par exemple, pour les, il y a un fabricant de grues en Finlande qui s'appelle Pekaniskan Pohjat, qui a fait d'énormes efforts pour que les gens qui font ce matériel de manutention le fassent de manière sans que ce soit difficile. Et un senior peut faire le travail. Ils ont embauché beaucoup de seniors. C'est quand même, en France, on ne voit pas une entreprise qui dit « j'ai décidé d'embaucher des seniors en priorité ». Bon, d'abord, il y aurait une question de discrimination peut-être, mais... Non, c'est... Là, il y a une conception différente et on a des progrès à faire.
Merci beaucoup Alain Lefebvre. Retraite, doit-on suivre le modèle scandinave? Le grand reportage de cette semaine était signé Annabelle Grelly. Réalisation François-Charles Domergue avec Marie-Claire Oumabadi à la technique. Merci également à la documentation d'actualité de Radio France. Vous pouvez bien sûr réécouter et podcaster cette émission de la rédaction sur franceculture.fr.